Voilà, avant de lire la parole, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous conduire à la compréhension profonde. Nous avons entendu, Seigneur, dans la liturgie, des paroles magnifiques qui nous parlent de ton amour, qui nous parlent de ton pardon, qui nous parle aussi de ce que tu as voulu révéler aux hommes à travers l'Écriture. C'est une merveille, Seigneur, que cette Écriture soit parvenue au cours des siècles, de génération en génération, que nous apprenions à te connaître. Alors, aujourd'hui encore, nous allons lire cette Écriture. Et nous voulons vraiment te demander que ton Esprit Saint nous fasse comprendre en profondeur ce que tu as à dire au cœur de chacun de nous ce matin ici présent. Que nous ne repartions pas, Seigneur, sans avoir compris, vraiment compris ce que tu veux dire. C'est ce que nous te demandons. Amen. Aujourd'hui, je vais vous lire dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre. À partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Romains 1, 8 à 17. Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que, chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Voilà ce sur quoi je vais insister maintenant, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Juste un tout petit rappel. Donc, quand on parle de l'Évangile ou quand on parle de la bonne nouvelle, c'est strictement la même chose. C'est deux traductions d'un même mot en grec. Donc, Euangelion, E, c'est le préfixe qui veut dire bon. Et Angelos, Angelion, c'est un ange ou un messager. Donc c'est la bonne nouvelle, le bon message. C'est ce que veut dire l'Évangile. Ici, donc au verset 8, on voit que Paul s'adresse à des chrétiens. Je relis le verset 8. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et ce Paul-là voudrait rencontrer ces chrétiens pour deux raisons bien précises. D'abord, pour les fortifier dans la foi, c'est le verset 11. Je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Et la deuxième raison, c'est pour que chacun soit encouragé par la foi de l'autre. C'est le verset 12. afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc ces deux intentions de l'apôtre Paul me donnent l'occasion de souligner donc les points suivants. Le premier, chaque chrétien a besoin de l'enseignement que dispense l'Église s'il veut grandir dans la foi. En effet, pour grandir, la foi doit être nourrie par la connaissance que donne l'enseignement. Les cultes, les groupes de partage biblique, les groupes de prière sont des lieux d'enseignement. Se priver de ces rencontres, c'est se condamner à stagner et même à régresser dans la foi. L'expérience de ceux qui se sont éloignés de l'Église ou qui l'ont quittée le prouve vraiment. Le deuxième point, c'est contrairement à ce qu'on entend souvent dire, on ne peut pas vivre sa foi tout seul. Pour grandir, un chrétien a besoin du témoignage, de l'expérience, de la prière et de la communion avec les autres chrétiens. Les actes des apôtres nous rapportent l'assiduité dont faisaient preuve les premiers chrétiens pour l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire pour l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Je cite, « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » On voit les fruits de la persévérance là. On voit les fruits de l'assiduité de ces premiers chrétiens. L'individualisme est aussi sclérosant et destructeur pour la foi que pour les relations sociales. Comprenons que l'Église, quelle que soit sa forme, j'entends Église de maison ou Église comme la nôtre, l'Église est une volonté de Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes, l'Église, c'est une volonté de Dieu. Les croyants sont appelés à vivre cette volonté. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes croyants rassemblés pour honorer le Seigneur et travailler ensemble au service du Christ. L'individualisme spirituel prive celui qui reste seul des dons des autres, mais il prive aussi l'Église de ses dons à lui. Quand on regarde le texte, on s'aperçoit que les versets clés, les versets importants de ce passage sont les versets 16 et 17. Regardons d'abord le verset 16. On pourrait dire que ce verset est une définition de ce qu'est l'Évangile. Je lis, je le relis. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Donc on voit ici que Paul affirme que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile aussi, puisque c'est le même mot, est une puissance de Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'homme a-t-il besoin que la puissance de Dieu intervienne pour être sauvé? Parce que dès sa naissance, l'homme est aux prises avec une autre puissance qui lui colle à la peau et qui l'éloigne de Dieu. Cette puissance, c'est sa nature pécheresse. Paul écrit, la chair, c'est achaïr, c'est-à-dire l'homme non régénéré par l'Esprit de Dieu. La chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la voix de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute, elle en est même incapable, c'est-à-dire incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Ce verset dit donc clairement les choses. Sans une intervention divine, sans la puissance de Dieu contenue dans la bonne nouvelle ou dans l'évangile, l'homme resterait à jamais prisonnier de sa nature de pécheur et resterait ennemi de Dieu et donc sous sa colère. Pour être convaincu que la nature pécheresse de l'homme est une puissance négative et destructrice, il suffit de regarder simplement un seul journal télévisé. Et en ce moment, on est vraiment gâté. Pour comprendre comment se manifeste la puissance de Dieu dans l'Écriture, il faut méditer ce passage de l'Épître aux Hébreux. Donc Hébreux 4, versets 12 et suivants. La parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je redis ce passage. Elle est juge, donc la parole. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est cette parole qui nous fait comprendre si on est dans la droite ligne ou si on ne l'est pas. Ne pas se nourrir de cette parole tous les jours comme une nourriture spirituelle, c'est se priver de cette puissance de Dieu et donc être incapable de lutter contre la puissance du péché qui nous habite et qui agit chaque jour pour nous maintenir dans son esclavage. Car comme l'écrit Paul, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Christ qui conduit à la justice. C'est Romains 6, 16. Voilà. De qui voulons-nous être l'esclave ? Du péché ou de Christ ? Regardons maintenant le verset 17. Il nous montre comment cette puissance sauve. Elle sauve en faisant naître la foi dans le cœur de l'homme. Je relis le verset 17. La justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Essayons de bien comprendre ce que ça veut dire, la justice de Dieu. Je me contente de citer donc ce que le glossaire de ma Bible dit du mot justice. Dieu est juste parce qu'il accorde, selon sa promesse, son salut et sa bénédiction. La justification est ce qui rétablit l'homme dans cette juste relation avec Dieu et lui apporte le salut. La justification ne peut exister que par la grâce de Dieu et la foi en Jésus-Christ. De son côté, l'homme est juste devant Dieu dans la mesure où il est dans cette relation normale avec lui, c'est-à-dire dans la repentance et la foi, dans l'obéissance et la fidélité. C'est vrai que quand on lit pour la première fois donc la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, c'est pas facile à comprendre. Donc j'ai cherché à éclaircir ça et j'ai trouvé donc l'interprétation que Calvin donnait de cette expression par la foi et pour la foi. Lui, il dit que ça veut dire par une foi toujours renouvelée. Et je répète donc avec l'explication de Calvin, la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile par une foi ou en accordant une foi toujours renouvelée. On voit donc que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, fait naître en l'homme la foi. Mais qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la confiance que l'on place en Dieu. En grec, les mots foi et confiance sont un même mot, pistis. La foi, c'est une relation vivante avec Dieu par le Christ. Et cette relation, c'est Dieu qui donne à l'homme de la connaître. C'est pas nous. C'est Dieu qui donne à l'homme de la connaître, cette relation. Cette relation n'est pas imposée à l'homme. Ne reçoit la foi et n'entre dans cette relation que celui qui l'accepte comme le plus beau des cadeaux de Dieu et qui satisfait aux conditions pour la recevoir. Quelles conditions ? Paul a écrit : la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, cette relation avec Dieu ne peut naître, elle ne peut durer et elle ne peut grandir qu'en étant nourrie de la bonne nouvelle. Le baptisé qui lit rarement la Bible ou ne la lit plus, ou le baptisé qui vit sur les souvenirs de son catéchisme d'enfance, ne peut pas avoir une relation vivante avec Dieu. Dieu va devenir pour lui de plus en plus un étranger avec lequel il n'a plus envie d'avoir des relations. C'est exactement la même chose avec des amis qu'on a perdu de vue depuis longtemps, la plupart du temps. Il n'a plus envie d'avoir des relations, et j'ajoute, sauf pour lui demander quelque chose lorsque les choses vont mal pour lui. Si le baptisé cesse de se nourrir de l'Évangile, cette absence de relation ne sera pas perçue comme un manque ou comme un vide. Je me souviens avoir entendu de la part d'anciens pratiquants. Je leur demandais, ça ne te manque pas ? Non, ça ne me manque pas. Cette situation est grave, car la foi, c'est le seul moyen pour être sauvé, le seul. Il n'y en a pas d'autre. Je prends Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la foi, écrit l'apôtre, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, ça c'est vrai. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce que la foi est vraiment le seul moyen pour être sauvé ? Ce n'est pas ce que pensent beaucoup de baptisés, qui disent que du moment qu'ils sont bons avec les autres, ou bien qu'ils font du bien aux autres, eh bien Dieu en tiendra compte au moment du jugement. Je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois ça. Se rendent-ils compte, ces hommes et ces femmes qui professent cela, qu'ils jugent la parole de Dieu et qu'ils la déclarent fausse ? Se rendent-ils compte qu'ils emploient les mêmes arguments que le serpent lorsqu'il a tenté Ève ? Souvenez-vous, Dieu avait dit à Adam : tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce que dit le serpent à Ève ? Mais non, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Genèse 3:5. Opposer sa propre pensée à la parole de Dieu, c'est le signe incontestable de l'insoumission à Dieu. Le signe que notre nature charnelle n'a pas encore été transformée par l'Esprit Saint. Et comme le dit Paul, ceux qui sont sous l'empire de la chair, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été encore transformés par l'Esprit Saint, ceux qui sont encore sous l'empire de la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, 8. Est-ce qu'on comprend bien que dans la mesure où on relativise ce qu'écrit la parole, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on ne peut pas sauter à pieds joints sur ces paroles qui sont écrites et qui ne bougeront plus maintenant? Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Où en êtes-vous, frère, dans votre relation avec Dieu, frères et sœurs ici présents? Où en sont les hommes et les femmes inscrits sur la liste électorale de notre Église, mais qui fréquentent rarement les cultes ou les autres activités paroissiales? Les causes de la désertification de l'Église sont connues. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est en concurrence avec tout ce que le monde offre d'attirant pour notre nature charnelle. Cela a toujours été et le sera toujours. Il y a un choix à faire. C'est choisir le Christ. Et c'est à chacun de le faire. Personne ne le fera à notre place. C'est notre liberté d'accepter ou de refuser. Et ce choix est vital, puisque c'est le salut de chacun, le salut de chacun qui est en jeu. Souvent, quand on parle avec des baptisés, on se rend compte que cette chose-là n'est pas prise en compte, que c'est secondaire. C'est pas secondaire. C'est écrit. Et comme le dit une parole de l'Évangile, il n'y a pas un point sur le i qui ne passera. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce qu'on a envie de demander au Seigneur, c'est qu'il se révèle à chaque membre de notre Église. Cette Église qu'il aime. Qu'il se révèle pour que chaque membre de notre Église comprenne la nécessité impérieuse de faire ce choix. Tu connais tous les cœurs, Seigneur. Moi, je ne les connais pas. Ce que je sais, Seigneur, c'est que tu as le même amour pour tous ces hommes et ces femmes qui sont ici ce matin. Et que tu sais, Seigneur, où en est, où ils en sont chacun, dans leur relation avec toi. Que je te demande, Seigneur, c'est que si certains n'ont pas compris encore l'importance d'avoir cette relation avec toi, permets qu'ils le comprennent maintenant, Seigneur. pour qu'il ne passe pas à côté de l'essentiel. Permet-il comprendre la portée de ton sacrifice à la croix. Permet qu'il comprenne, Seigneur, que être à son service, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses faire à un homme ou à une femme. Touche les cœurs, Seigneur. Les cœurs qui se sont endurcis, Seigneur, ramollis-les pour qu'ils puissent comprendre. Les oreilles qui se sont endurcies, Seigneur, débouche-les pour qu'elles puissent entendre.